Chapitre 21. Il est près de minuit et Joanne n'est pas rentrée. Elle a disparu la journée entière. Émile ne se souvient même pas de l'avoir entendue se lever ce matin. Elle a dû quitter le camping-car à l'aube. Elle n'a pris aucune affaire, pas même un sac à dos. C'est pour ça qu'il ne s'est pas inquiété tout de suite. Il a pensé qu'elle était partie marcher un peu. Sauf que les heures ont passé et que maintenant il est minuit moins 10. Elle n'a jamais fait ça. D'habitude, quand elle part, elle laisse un petit mot et elle indique quand elle rentrera. Elle n'a jamais disparu toute une journée, encore moins jusqu'à presque minuit. Dehors, il pleut à seaux. Le vent est violent. Le petit chauffage d'appoint semble s'épuiser à lutter contre les courants d'air glaciaux qui s'infiltrent sous la porte. Pourquoi serait-elle dehors à une heure pareille, sous ce déluge? Pourquoi ne lui aurait-elle rien dit? L'angoisse a grimpé toute la journée, se faisant de plus en plus sourde, de plus en plus pesante. Et pour ne rien arranger, il y a le téléphone de Joanne qui vibre dans le placard en permanence depuis ce matin. C'est un véritable harcèlement. À chaque nouvelle vibration, Émile a un sursaut violent. Ses sens sont tellement en éveil, scrutant le moindre bruit de pas au dehors, qu'il pourrait faire un arrêt cardiaque si ce foutu téléphone se remet à sonner. Comme pour se moquer de lui, le vibreur se remet soudain en route et il fait tomber une des petites tasses en porcelaine qu'il était en train de laver dans l'évier. Eh merde ! Elle n'est pas cassée, mais une belle brèche est apparue. Il risque de se couper maintenant en buvant. Bon sang, mais qui peut bien la harceler comme ça ? Léon, probablement. Mais pourquoi aujourd'hui ? Ça fait des semaines qu'il n'appelle plus. À moins que... Une idée vient de s'insinuer lentement dans sa tête. Une idée qu'il aurait dû avoir il y a déjà quelques heures. Et si c'était Joanne qui essayait de le joindre? Et si elle avait eu un problème et tentait depuis ce matin de le prévenir? Elle n'aurait pas d'autre moyen de le joindre qu'en appelant sur son propre téléphone resté au camping-car. Il abandonne sa vaisselle et fonce tout droit sur le placard mural. Bon sang, mais pourquoi il n'y a pas pensé avant? Cela fait peut-être des heures qu'elle essaie de l'appeler. Depuis on ne sait où, blessé, arrêté par la police, qui sait. Il a des gestes fébriles et précipités. Il fait tomber une bonne partie des vêtements de Joanne en voulant attraper son téléphone. Ça y est, il l'a. L'engin infernal vibre toujours. L'écran indique « numéro inconnu ». Il hésite un instant. Et si ça n'est pas elle? Mais la certitude prend le dessus. C'est forcément elle. Elle a disparu depuis presque 24 heures sans prévenir. C'est forcément elle, depuis une cabine téléphonique, un poste de police ou n'importe quel autre endroit où elle est bloquée depuis des heures. Il a le souffle court quand il décroche et son « allô » se perd dans sa gorge. La voix qui jaillit dans le combiné n'est pas celle de Joanne. C'est une voix masculine, saccadée, presque brisée par l'émotion.
« Joanne, c'est moi. J'essaie de te joindre depuis ce matin, sans arrêt. J'ai eu l'idée de t'appeler en numéro inconnu. J'ai pensé que tu répondrais peut-être si mon nom n'apparaissait pas. »
La voix se brise et Émile se retrouve muet, pris de court. Il s'agit de Léon. Et tout à coup, il ne sait plus du tout ce qu'il convient de faire. Il ne peut quand même pas raccrocher.
« Joanne ?»
répète Léon. Dans quel bourbier s'est-il mis en répondant à ce téléphone? Quand Joanne l'apprendra, elle va le tuer.
Joanne, je t'en supplie, réponds-moi. J'en peux plus de ton silence.
L'homme a des accents douloureux dans la gorge. Émile se racle la gorge et se décide à se jeter à l'eau.
C'est pas Joanne.
Quoi?
La voix se brise dans le combiné. Émile déglutit difficilement.
Elle est pas là actuellement.
Il a l'impression d'entendre un sanglot étouffé.
« Alors c'est vous ?»
lâche l'homme. « Pardon ?»«
C'est pour vous qu'elle est partie ?»«
Non. »«
C'est pour ça qu'elle donne plus de nouvelles. Elle est avec vous maintenant. »«
Non !»
répète Émile, aussi désemparé que Léon.
« Vous mentez !»
Cette fois, Émile ne peut plus s'y tromper. L'homme pleure dans le combiné. il l'entend sangloter de façon étouffée.
Elle... Je l'ai juste ramassée sur une aire d'autoroute. Elle... Elle n'est pas partie pour moi, je vous promets.
Il fait ce qu'il peut pour calmer l'homme. Il ne sait pas s'il dit les bons mots, s'il n'empire pas la situation.
Non.
Hoquette l'homme.
Elle n'est pas partie pour vous, bien sûr. C'est à cause de moi.
Il y a un temps de silence pendant lequel Émile entend l'homme pleurer en essayant de ne pas le montrer. Mais les sanglots dans la voix ne trompent pas.
Elle est partie à cause de moi. À cause de ce que j'ai fait à Tom.
Émile se tend imperceptiblement, la main crispée sur le téléphone. Tom ? Répète-t-il en sentant sa gorge se serrer. Tom Blue ? Léon émet un drôle de bruit comme un hoquet de surprise où l'on perçoit une touche de tendresse.
« Oh, elle vous a parlé de lui ?»«
Elle... »
Il n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que Tom Blue vient faire là-dedans ? Quel est le rapport avec Léon ?«
Ouais, enfin, un peu. »
Léon semble suffoqué.
« Elle vous a dit comment ça arrivait ?»
Émile secoue la tête. Il a l'impression que quelque chose lui échappe. Il sent son cœur cogner contre sa poitrine, sa gorge se serrer.
« Comment c'est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Elle m'a juste raconté qu'il peignait du bleu, tout le temps, et qu'il passait des heures à regarder le ciel. »
Le silence assourdissant, qui s'éternise au bout du fil, lui fait comprendre que la réponse n'est pas celle que Léon attendait.
Elle vous a dit qui il était ?
Je... Non. Enfin, si, je...
Il n'est plus sûr de rien, tout à coup.
Il s'agit d'un élève de son école, non ?
Il a la désagréable impression que ça n'est pas du tout le cas. Et la réponse de Léon, sa voix blanche et étranglée, ne vont pas le contredire.
Ça n'était pas un élève.
Non ?
Non.
Émile attend la réponse avec une certaine appréhension. Il retient sa respiration. Ses doigts se crispent sur le combiné.
C'était son petit.
Il déglutit difficilement, secoue la tête pour tenter de comprendre.
Quoi ?
Tom était notre fils.
Émile répète avec un hébétement total les mots qui viennent de jaillir de la bouche de Léon.
« Tom était votre fils. Johan a un... Johan a un petit. »
Il n'est pas préparé à entendre ce qui suit.
« Il est mort il y a 15 mois. Il venait d'avoir 3 ans. »
Il a l'impression qu'on vient de lui lâcher une chape de plomb au-dessus de la tête. Qu'on vient de l'assommer brutalement. Il cherche l'air autour de lui. Il a du mal à respirer.
Son petit,
parvient-il à suffoquer.
Mort ?
Léon a recommencé à parler de l'autre côté du combiné, mais Émile l'entend à peine.
C'était un petit garçon, tellement différent. Il était autiste. Il n'a jamais réussi à apprendre à parler. Il était toujours muet, mais il peignait beaucoup. Johan a tout laissé en plan pour s'en occuper. Elle a abandonné son travail à l'école pour être avec lui à temps plein.
Émile s'est agrippé à la porte du placard mural. Il ne sent plus sa main tellement elle serre le téléphone. Léon poursuit sans se préoccuper du silence, de l'absence de réaction. Il continue de parler, sans se soucier des sanglots dans sa gorge.
Elle habitait toujours dans l'école et elle faisait son possible pour le mêler aux autres enfants. Tom était tellement différent, tellement à part. Je n'arrivais pas à capter son regard. Il était hermétique à tout et à tout le monde, sauf à ce foutu bleu. Et à Johan. Elle était la seule à pouvoir le toucher.
Émile fait quelques pas et va s'asseoir sur la banquette où Poc est roulé en boule. Il réussit à parler, le souffle court.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il ne sait pas s'il veut vraiment le savoir. Il ne sait plus rien. Il est là, figé sur la banquette, les jambes cotonneuses, le cœur prêt à exploser. La voix de Léon se transforme en un râle douloureux.
Il était toujours obsédé par ce bleu, par le ciel, par l'eau. Toujours ce foutu bleu. Je l'avais emmené au lac. Johan avait dû rester à l'école exceptionnellement pour fermer les grilles après un banquet de fin d'année. Elle disait qu'elle nous rejoindrait tout de suite après, qu'elle prendrait sa bicyclette rouge. Elle nous avait préparé des sandwichs. C'était un lac sauvage. On ne voulait pas se baigner, juste profiter de la fraîcheur des bois.
Émile écoute chaque cellule de son corps tendu.
J'ai laissé Tom avec le sac à pique-nique et la petite couverture, et je suis allé attacher les vélos à une barrière. C'était à une dizaine de mètres, en lisière du bois. Et je lui avais demandé de m'attendre sagement. J'ai eu quelques difficultés à attacher le vélo de Tom. Le cadenas était rouillé.
Léon doit s'arrêter, submergé par l'émotion. Émile sent l'horreur grandir en lui. Il espère que ça n'est pas ce qu'il pressent. Ce bleu, ce foutu bleu.
J'ai pas dû mettre plus de 3 minutes, peut-être 4, le temps de revenir jusqu'au panier de pique-nique et de me rendre compte que Tom n'y était plus.
Émile l'entend inspirer difficilement.
J'ai tout de suite su. J'ai tout de suite compris qu'il était allé voir ce foutu lac. Mais je pensais le trouver au bord, dans sa fichue position accroupie dans laquelle il pouvait rester des heures. Je l'aurais soulevé, je l'aurais disputé. Il se serait débattu parce qu'il ne supportait pas que je le touche. Il n'y avait que Johan qui pouvait le faire.
La voix de Léon se brise, mais il poursuit quand même.
Je pensais pas le trouver comme ça.
Il étouffe un nouveau sanglot, et Émile lui laisse quelques secondes pour se reprendre.
Il y avait que ses cheveux blonds et son t-shirt qui dépassaient. Il bougeait plus. Il flottait à la surface. J'ai cru qu'il me faisait une blague. Je lui ai hurlé dessus, je lui ai crié « C'est pas drôle, sors de là tout de suite !» J'arrivais pas à bouger. J'arrivais pas à y croire. J'étais là, planté au bord du lac, incapable de faire un geste. Et puis, quand j'ai réagi, quand je suis entré dans l'eau pour aller le chercher, je me suis pris dans les algues, dans la vase, dans les branches qui flottaient. Il y avait des trous d'eau. C'était un lac sauvage. Il était impossible d'aller le récupérer, je pouvais pas le ramener sur le rivage.
Il semble se défendre contre des accusateurs invisibles et répète encore.
Je pouvais pas, c'était impossible.
Un nouveau silence glacial s'étire quelques secondes.
Ce sont les policiers qui l'ont sorti de là, des plongeurs. Johan était arrivé à bicyclette entre-temps. Elle était à moitié morte sur ce rivage. Je crois qu'elle est morte ce jour-là, sur le rivage, alors que je la retenais pour qu'elle ne s'effondre pas.
Il fait un effort pour surmonter la nouvelle vague de douleur qui le submerge.
J'aurais préféré qu'elle me tue à ce moment-là. J'aurais préféré que ce soit moi plutôt que Tom.
Le silence s'est prolongé pendant plus d'une minute. Léon sanglote. Émile fait face à la stupeur. Il essaie de prendre la mesure de tout ce qu'il vient de découvrir. Tom Blue, le fils de Johan. Elle avait pourtant dit... Mais maintenant qu'il cherche à se souvenir, il s'aperçoit qu'elle n'a jamais rien dit de précis. Elle s'est contentée de répondre à ses questions.
Il était dans l'école où tu travaillais ?
Oui, il était dans l'école.
Elle n'a jamais dit qu'il était un élève. Elle a dit qu'il était dans l'école. C'est vrai. Il vivait dans l'école avec elle et avec Léon, elle n'a pas menti. D'ailleurs, elle avait ajouté
« Mais il est parti ».
Elle n'a pas précisé où et comment il était parti, mais elle a dit qu'il était parti. Peut-être aurait-il pu deviner. Il aurait pu comprendre qu'il vivait dans le ciel. Elle avait donné quelques indices.
« Je me demande si je trouverai la bonne combinaison de bleu un jour. » Si je pourrais la peindre pour lui et la lui donner le jour où je le retrouverai.
Tu sais où il est parti? Tu sais comment tu feras pour le retrouver?
J'ai une petite idée.
Tu crois qu'il contemple le ciel en ce moment?
Je suis certaine que oui.
S'il n'avait pas été persuadé que Tom Blue était un élève de l'école, s'il n'avait pas été certain que ce petit garçon avait tout simplement déménagé, il secoue la tête. Non, il n'aurait pas pu deviner. Il n'aurait jamais pu imaginer une horreur pareille. La voix de Léon dans le combiné le fait sursauter.
C'est la Toussaint aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle a passé une journée atroce. Je suis allé sur la tombe de Tom avec mes parents. Vous lui direz.
Léon n'attend pas de réponse. Il poursuit très vite.
Comment elle va ?
Elle... Il n'ose pas lui avouer qu'elle a disparu depuis ce matin très tôt, qu'il n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Il préfère mentir un peu. Pas très bien, c'est vrai. Léon pousse un gémissement douloureux.
Vous savez, elle a dit qu'elle partait avant d'avoir retrouvé la force de me tuer.
Émile ne trouve rien à répondre, mais Léon poursuit comme s'il ne s'adressait qu'à lui-même.
J'ai tué son petit. Elle a dit que c'était de ma faute, que j'aurais dû le surveiller. Qu'il fallait le surveiller en permanence. Il n'avait pas conscience du danger, vous savez. Elle a dit que j'aurais dû savoir qu'il était obsédé par le bleu, par l'eau.
Des paroles reviennent à la mémoire d'Émile. Des paroles prononcées une nuit, alors que Joanne hallucinait à cause de la fièvre, quand elle l'avait pris pour Léon et enlacé.
Pourquoi tu l'as laissé y aller? Tu savais comme il était.
Et d'autres prononcées plus tard au cours de leur voyage.
On ne devrait jamais laisser les petits garçons 2 secondes sans surveillance. Il a fait quelque chose d'impardonnable. Je suis partie car je ne peux plus vivre auprès de lui après ce qu'il a fait. Peut-être que je rentrerai un jour, peut-être pas. Si je rentre, je crois qu'il me faudra des années.
La voix de Léon poursuit.
Et puis, il y a eu l'enterrement. Je pensais pas qu'elle m'en voudrait autant pour l'enterrement.
Pour l'enterrement ? Léon sanglote de nouveau. Émile a l'impression d'être enseveli sous des mètres d'horreur. Chaque nouvelle annonce est pire que la précédente.
Elle était en maison de repos. Elle était sous cachet. Ils l'ont tout juste autorisée à assister à la messe.
Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle disait qu'elle voulait qu'il soit incinéré. Elle répétait des choses insensées à propos de ses cendres qu'elle voulait jeter à la mer pour qu'il puisse s'envoler. Mais elle était droguée de cachet et mes parents ne voulaient pas entendre parler d'incinération. Je viens d'une famille très catholique. C'était impensable et Joanne était de toute façon trop droguée pour savoir ce qu'elle disait.
Émile ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de dégoût. C'est involontaire, c'est plus fort que lui. Léon n'a quand même pas pu. Mais la suite tombe.
Alors on l'a fait enterrer. Ça non plus, elle n'a pas pu me le pardonner. Elle est devenue dingue pendant la messe. On a dû la ramener de force à la maison de repos. Elle a jamais voulu aller sur sa tombe. Elle a toujours décrété que ça n'était pas là que Tom se trouvait. Pas pour elle en tout cas.
Émile se relève. Tout à coup, il ne supporte plus de rester assis. Il ne supporte plus la voix de Léon qui geint, qui se plaint mais qui a trahi Joanne par 2 fois. Léon qui répète qu'il aurait dû mourir à la place de Tom mais qu'il n'a pas été fichu d'aller récupérer le petit garçon au milieu du lac. Moi, j'y serais arrivé. Il y a cette voix qui s'insinue dans sa tête. Si Joanne avait porté mon enfant, j'aurais veillé sur lui plus que sur n'importe qui. Je l'aurais ramené sur le rivage.
Elle est restée en maison de repos pendant presque 1 an. Elle a perdu 7 ou 8 kilos. Et quand elle a quitté le centre, elle n'a pas pu supporter de se retrouver à la maison avec moi. Elle a préféré partir.
Émile n'a pas envie d'en entendre plus. La panique vient de le gagner. Une idée s'est insinuée dans son esprit. Il ne parvient presque plus à respirer maintenant.
Écoutez, Léon, je vais devoir vous laisser. Joanne est toute seule dehors sous la pluie. Je ferai mieux d'aller à sa recherche.
Quoi ?
Il enfile son manteau d'une main, cherche les clés du camping-car sur le plan de travail.
Pourquoi ?
Faites que ça ne soit pas ce que je pense.
Il tente de maîtriser la terreur qui l'envahit à chaque seconde.
Elle est allée faire un tour.
Il met la main sur les clés du camping-car et parle de plus en plus vite.
Je vais la chercher, d'accord ? Il faut vraiment que je vous laisse. Je peux pas la laisser dehors sous la pluie.
Léon perçoit la panique dans sa voix. Il tente de le retenir.
Attendez, dites-lui que...
Je dois vraiment vous laisser.
Donnez-moi de ces nouvelles. Je vous en supplie, je sais qu'elle refusera de me répondre, mais vous, donnez-moi de ses nouvelles. »
Il a l'air tellement désemparé qu'Émile ne peut qu'acquiescer.
« Vous trouverez mon numéro dans son répertoire. Mon prénom, c'est Léon. »«
D'accord, c'est noté. Maintenant, je dois filer. »
Il raccroche sans attendre de réponse. Le mauvais pressentiment grandit en lui et il se jette à l'extérieur sous la pluie torrentielle.